Bonsoir à tous, que le Seigneur vous bénisse, prions. Je te demande, Seigneur Jésus, que tu nous éclaires par ces quelques mots que je vais prononcer et que chacun puisse y trouver son compte pour pouvoir progresser, marcher, aller de l'avant, relever la tête s'il en est besoin. Merci Jésus. Amen.
Amen.
On va faire une première lecture dans Jean chapitre 9, verset 4. C'est Jésus qui parle, il dit « Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et au chapitre 12, une autre lecture, au verset 35. Jésus leur dit « La lumière est encore un peu de temps parmi vous. » Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en elle, afin de devenir des enfants de lumière. Amen. Le jour, on vient de lire. La lumière, on vient de lire. En fait, Jésus parle de beaucoup de choses, mais je voudrais retenir ce soir quelques notions. Le jour, la lumière, Jésus nous parle là de moments où l'influence divine se manifeste particulièrement. On est conscient de vivre dans un tel moment. Amen. Et nous nous efforçons d'utiliser ces moments pour travailler à notre perfectionnement et aussi dans l'œuvre, dans la vigne de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, parce qu'on sait que ces moments ne durent pas. Il suffit de regarder l'histoire de l'Église pour s'apercevoir, même le temps de Jésus, c'était très court. Hein. Ensuite, le temps des apôtres, ça n'a pas été très long non plus. Et quand vous regardez depuis la Réforme, le temps de Luther, ça n'a pas été très, très long. Très rapidement, tout a dégénéré dans la persécution. Le temps de Wesley non plus, ça n'a pas duré très très longtemps. Celui du Branham non plus. Ça a viré très rapidement dans le sectarisme après sa mort, à tel point que frère Osborne nous avait dit « Je ne pouvais pas rester dans ce milieu-là parce que j'aurais pu ruiner mon ministère. » En notre temps, celui des rétablissements, eh bien, nous savons aussi qu'il ne durera pas longtemps. Déjà, on voit l'imitation diabolique de tout cela. Alors, il ne nous faut pas être négligents. Ne nous laissons pas avoir, ne laissons pas passer ce moment. Travaillons avec crainte et tremblement dans la vigne de Dieu, dans ce qu'il nous a confié, pour que soit rétabli ce qui doit être rétabli et que ceux qui en sont dignes reçoivent ce rétablissement et le vivent. Vous savez, quand quelqu'un reçoit de Dieu un enseignement spirituel, il a conscience d'être habité par le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit cherche à se manifester. Alors celui qui reçoit cet enseignement a conscience de sa petitesse, alors il demande de l'aide, et Dieu lui envoie des anges célestes pour l'aider, mais aussi des anges terrestres pour l'aider, c'est-à-dire des envoyés. Le mot ange signifie envoyer, je vous l'ai déjà dit souvent. C'est-à-dire qu'il lui envoie des hommes, des femmes, des enfants qui prient pour lui, qui travaillent en collaboration avec lui, et qui le soutiennent aussi financièrement. Parce que, eh bien voilà, la Bible le dit, il faut que vous le sachiez, celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Mais l'ennemi envoie aussi ses anges, c'est-à-dire ses démons, pour détruire, pour tuer, pour anéantir, pour ruiner. Il a toujours fait ça. Alors vous qui croyez que Dieu m'a donné quelque chose de particulier, eh bien ne vous montrez pas négligent. Montrez votre spiritualité en faisant avec ce que vous avez. Chacun a reçu un talent particulier. Chacun à quelque chose qu'il peut faire. Et rappelez-vous que ni Dieu ni moi, on se trompe. On voit quand même clair. On voit nettement qui est qui par les actes. Parce que le blablabla, voilà, c'est gentil, mais par les actes. Alors, je dis toujours, Dieu est ma source. C'est vrai, c'est Dieu qui est ma source, c'est vrai. Mais Dieu se sert de ses anges célestes, il se sert aussi de ses anges terrestres, des gens. Alors, comme disait Lafayette, vous connaissez Lafayette ? Il a dit, aussi, passe-moi le sel, il a dit plein de choses, mais il a dit, qui m'aime me suive, c'est ce que l'histoire a surtout retenu, qui m'aime me suive. En fait, je ne me fais aucune illusion, je sais qui m'aime, je sais qui croit dans mon ministère et qui n'y croit pas. Dieu tient tout sous son contrôle et je ne m'en fais pas pour ça. Je n'ai rien à craindre parce que je sais que ce qu'il veut, il l'aura, il le fera de toute façon. Il fait toujours ce qu'il veut et puis il n'est pas une petite fille qui a besoin de notre aide, ni de la mienne, ni de la vôtre. Mais vous voyez, je vais essayer de vous faire comprendre quelque chose qui va peut-être vous scandaliser, mais moi, je suis un homme intéressé. Dieu a fait des promesses concernant ceux qui travaillaient fidèlement dans sa vigne, alors je suis intéressé. Et si vous pensez que j'ai tort d'être intéressé, alors je vous demande si Dieu ne veut pas que nous soyons intéressés, pourquoi est-ce qu'il fait des promesses ? Nous avons le droit d'y trouver un intérêt. Il a fait des promesses afin que nous soyons intéressés. Intéressés à travailler dans sa vigne. Parce qu'il faut l'avouer, travailler dans sa vigne, c'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte. Dans cette vigne, on ne rencontre pas que la vigne. On rencontre des renards. Vous vous rappelez le passage qui dit « Les petits renards s'introduisent dans la vigne pour mettre le saccage partout. » Les renards, c'est les religieux. Hein. On y rencontre des hypocrites, c'est très souvent les mêmes. Des possédés, c'est aussi très souvent les mêmes. Des profiteurs, des sapeurs de morale, des flemmards, des imbéciles, des tueurs de rêves, des bouffeurs de temps. Ah, les bouffeurs de temps. Les gens qui vous bouffent votre temps. Bref, il y a plus de nuisibles, plus de toxiques, plus de parleurs que de bienfaiteurs. Mais c'est pas mon problème, c'est pas le problème des serviteurs de Dieu qui prêchent, parce que c'est sa vigne à lui, c'est la vigne de mon Père Céleste, et c'est lui qui est le plus intéressé. C'est lui qui veut le fruit, c'est lui qui veut la récolte. Et il bénit, et il protège les siens. Et curieusement, il se sert aussi des toxiques pour booster ses ouvriers et pour éloigner d'autres toxiques. C'est curieux, hein. Depuis un peu plus d'un mois, nous habitons en plein dans la vigne et nous voyons les ouvriers travailler dans la vigne. Et ben, c'est pas de la tarte non plus. Quel boulot! La vigne, c'est du travail. Et depuis ma terrasse, je vois les ouvriers qui travaillent dans la vigne. Eh bien, dis donc, mes enfants, ça ressemble bien au travail que Dieu confie à ses serviteurs, les prêcheurs. Tailler, émonder, sulfater, désherber, mettre de l'engrais, chasser les oiseaux, chasser les biches, parce que chez nous, on est infesté de biches. En Suisse, il n'y a pas de biches dans les vignes, en tout cas pas dans le laveau. J'ai jamais entendu parler de ça, mais ici, il y a des biches partout, elles adorent bouffer là-bas dans les vignes. Alors, au début des années 60, quand je me suis converti, pas au début, c'était fin 60, c'était à partir de 68, j'avais un idéal, je voulais servir Dieu dans sa vigne. Eh bien, je vais vous avouer quelque chose aujourd'hui, le plus important de tous les travaux dans cette vigne, ça a été de me maintenir dans cette vigne. C'était le travail le plus important. De ne pas sortir en courant, en claquant la porte. Plusieurs fois, j'ai eu envie d'envoyer tout promener. Mais vraiment, d'envoyer tout promener. Mais heureusement, Dans la vigne, il y a aussi des collaborateurs fidèles, comme vous, mes frères et sœurs, vous êtes des gens fidèles. Il y a aussi des inspirateurs parmi vous, il y en a. Et puis il y a, pour moi, des inspirateurs comme Raphaël, comme Osborne, comme Vikram Seth, comme Le Cossack. Enfin, ces grands hommes de Dieu que j'ai eu le privilège de rencontrer et qui m'inspirent encore, quoique ils soient tous partis maintenant. Ils sont tous partis. Mais leurs livres sont encore là, les DVD sont encore là, tout ça c'est encore là. Donc ça me fait du bien. Alors, dans les moments de découragement, Dieu envoie ceux dont on a besoin et les vrais serviteurs de Dieu les reconnaissent. Ce ne sont pas ceux qui viennent parce qu'ils ont pitié. On voit ça dans les yeux. Vous savez, au bout d'un moment, à force de rencontrer les gens, on discerne rien que d'un regard, on voit ceux qui viennent simplement parce qu'ils ont pitié. Ou ceux qui, comme le chant de Sylvie Vartan, ah, Michel, il parle encore de Sylvie Vartan. Oui, tout à l'heure de James Dean aussi pour vous embêter. Ceux qui, comme le chante si bien Sylvie Vartan, vous jettent quelques pièces de monnaie comme un pourboire. Ça, c'est terrible. Ou quelques bons mots pour vous amuser. Non, non, c'est pas de ceux-là dont je parle. Ce sont ceux qui aident vraiment. Qui vous aident pour vous rendre capable de discerner les occasions qui vous ouvre les yeux sur les choses que vous pouvez encore réaliser dans la vigne. Parce que c'est ça le grand problème, c'est qu'il arrive un moment où on est tellement rap-la-pla qu'on se dit « Oh, ça va comme ça, place aux jeunes. » Mais non, ils arrivent et puis ils disent « Mais non, il y a encore ça, tu peux faire ça avec ton expérience. » Dieu envoie ceux qui aident pratiquement, c'est-à-dire spirituellement en priant, et financièrement, régulièrement aussi. Et je voudrais au passage remercier tous ceux qui le font, que Dieu vous bénisse selon ses promesses. Vous voyez, Dieu dit aussi, il y a une promesse qui est attachée à ceux qui donnent les dîmes et les offrandes. Il dit, vous verrez, faites cela et vous verrez si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Donc, il dit même, mettez-moi à l'épreuve dans Malachie 3 ou 4, ça dépend de la version que vous avez chez vous. Mais Dieu veut que nous soyons intéressés. Il a un bon patron. Un patron d'une grande entreprise, il intéresse ses ouvriers aux bénéfices, non? Ben voilà, ben Dieu aussi. Dieu aussi. Il dit, je ne veux pas que le bœuf qui tourne autour de la meule, c'est-à-dire qui fait tourner la meule, je ne veux pas qu'il soit muselé, je veux qu'il puisse aussi manger le grain. Donc il veut que ceux qui travaillent à l'évangile, à la propagation de l'évangile, puissent aussi en vivre. Et alors, il envoie pour ça des gens qui aident. Vous voyez, au niveau qui est le vôtre, chacun doit s'efforcer de faire les œuvres de celui que nous aimons, c'est-à-dire Jésus-Christ qui nous a envoyés, avec des talents divers, mais nous avons tous quelque chose que nous pouvons faire d'une façon pratique. Et faire l'œuvre de notre Père, c'est participer à l'avènement de son royaume. C'est ce que Jésus nous dit dans la prière de notre Père. Il dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite par qui? Par qui elle doit être faite, sa volonté? Par ceux qui l'a envoyé déjà premièrement, avec des talents, tous différents, mais voilà, c'est surtout par eux. Bon, maintenant, vous me direz, il se sert aussi d'un Judas pour trahir Jésus afin que Jésus meure pour pouvoir porter nos péchés. Donc, il se sert de tout. Il se sert de tout. Alors, même si vous ne voulez pas prendre part par révolte ou par critique ou par ceci ou par cela, de toute façon, Dieu se sert de vous. Donc, le problème, c'est que si vous ne voulez pas servir Dieu d'une façon positive, consciente, intelligente, spirituelle, remplie d'amour, vous perdez votre récompense, c'est tout. Mais de toute façon, il vous utilise. Ils vous utilisent. Même les méchants, ils les utilisent. Alors, il y a un problème. Les anges ne cessent de donner aux serviteurs de Dieu des conditions favorables à leur travail, mais comme ces conditions se présentent rarement comme ils les attendent, alors ils n'en prennent pas conscience. C'est ça le grand problème. Et c'est ça surtout parmi les jeunes prédicateurs, les jeunes pasteurs. Je voudrais vous encourager, vous qui êtes peut-être nouveau dans le service de Dieu, ça fait peut-être 3-4 ans que vous servez le Seigneur et vous êtes un peu des fois découragé, prenez conscience, n'est-ce pas, que Dieu est avec vous et que les anges vous ouvrent des portes, mais vous pensez que ça allait se passer autrement. Voilà. Alors, ne baissez pas les bras. Rappelez-vous toujours que c'est exactement ce qui s'est passé avec les Juifs au temps où Jésus les a visités. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ? Parce qu'ils s'attendaient à quelque chose. Ils s'attendaient à avoir un roi. Les rois mages, quand ils sont arrivés, ils ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Très peu ont reconnu Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, Dieu dans la chair, quand il s'est présenté sous une apparence absolument normale. Normale, c'était un bonhomme, avec un nez, une bouche, des oreilles. Tiens, ça c'est aussi une chanson de Sylvie Vartan. Vous voyez, c'était un bonhomme normal. Il y en a qui le trouvaient moche, il y en a qui le trouvaient beau, tous les goûts sont dans la nature. Mais il n'avait pas du tout un air royal, tel qu'on peut s'imaginer un roi. Alors, c'est si facile de se laisser tromper par les apparences. Les apparences. Ah oui, ça, il y a une chose. Je me suis efforcé, je fais des efforts pour ressembler à un pasteur, mais j'y arrive pas. J'y arrive pas au bout d'un moment. Chasser le naturel, il revient au galop. Moi, je peux pas jouer la comédie et puis jouer au pasteur, gna gna gna, je peux pas. Au bout d'un moment, ça m'énerve. Alors, en Afrique, ils veulent que... Je me rappelle toujours, on est arrivé dans un bled, je sais même pas où c'est, un bled pourri. Puis tous les pasteurs étaient là, assis sur des magnifiques chaises en plastique dans une cour. Et puis ils me voyaient arriver avec un t-shirt. À l'époque, j'étais super, je faisais de la muscule et tout. Et celui qui organise, il se tourne vers Nicolas et dit « Mais il va se changer avant de prêcher. » Puis Nicolas dit « Non. » Ah, oh, mais c'est impossible, il peut pas prêcher dans cette tenue-là, parce que j'étais en t-shirt. Eh ben, il a fallu que j'aille acheter une chemise. Alors, j'ai été m'acheter une chemise à 3 balles, moche comme tout, mais il était content parce que j'avais une chemise, il m'a prêté une cravate, et puis là, j'avais le droit de prêcher. Alors, après, j'ai prié pour les malades, et il y a eu des miracles. Je me rappelle toujours le premier miracle qui a eu lieu là-bas dans cette... Comment s'appelait cette ville? C'était un sourd-muet, mais de naissance. Alors, il pouvait pas, une fois qu'il était guéri de sa sourdité, il pouvait pas parler, parce qu'il n'avait jamais entendu parler. Alors, j'ai émis des sons, tout ça, pa, 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 mi, 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 puis alors il imitait comme ça, et les gens criaient, hurlaient, tout. Puis après, les pasteurs sont venus me demander pardon, m'avoir obligé d'acheter une chemise. Dans un autre bled... Je sais plus où c'était non plus. Je crois que c'était le pasteur Coné. Pasteur Coné. Des assemblées de Dieu. Alors, on va là-bas pour prêcher. Et puis, on allait prêcher dans une rue chaude, là où il y avait les prostituées, tout ça. Et il voulait aussi que je m'habille en costume cravate. C'est au moins 40 degrés. Costume cravate, fermé jusqu'au col. Donc, ça va pas, quoi. Donc j'ai dit non, moi je m'habille pas comme un VRP. Alors il se tourne vers un blanc qui était là et lui dit c'est quoi un VRP? Et l'autre il n'avait pas entendu la conversation et il dit ah les VRP c'est des minables qui vont vendre des bougies au porte-à-porte. Il lui a répondu comme ça, c'était pas très gentil, les VRP c'est pas seulement ça, mais enfin je dis voilà. Donc il lui a répondu ça. Alors il était pas content du tout, n'est-ce pas, que je dise que les pasteurs sont habillés comme des vendeurs de bougies au portable. Et puis ensuite, on a eu la réunion dans... Et il y a aussi eu plein de gens qui sont convertis, il y a eu des guérisons. C'est là d'ailleurs qu'il y avait eu cet homme, un musulman qui m'avait jeté un gros bonhomme dans les bras en disant « Ah ben, puisque ton Jésus est si fort, guéris-le lui !» Et c'était aussi un sourd-muet. Et j'étais coincé contre un mur avec ce gros bonhomme dans les bras. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je... La foule était... Mais ils étaient à 50 cm de moi, ils m'entouraient. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, au secours, guéris-le, ça va mal tourner. Et au nom de Jésus, esprit de sourdité, sors de là! Et le bonhomme, je fais comme ça, vers ses oreilles, il tourne la tête et il pouvait tout répéter. Ouh là 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 là, les hurlés, les cris, tout le monde, c'était extraordinaire. Alors il fallait que, bien sûr, ils ont tous été convaincus de la puissance de Jésus-Christ, mais moi il a fallu que je me mette à quatre pattes pour fuir entre les jambes, parce que sinon ils allaient me bouffer, m'arracher la chemise, ils voulaient avoir quelque chose de moi. Vous savez, c'est terrible. Je comprends pourquoi Osborne il a des estrades hautes comme ça, moi j'étais dans la rue. L'apparence, alors après le pasteur m'avait demandé pardon aussi d'avoir prêché, il m'avait demandé pardon d'avoir exigé que je m'habille en costume, cravate et tout. Et puis on est devenus des amis depuis. Vous voyez, l'apparence, j'aimerais bien avoir l'apparence. Je voudrais bien, mais je peux pas. Combien de personnes ont voulu entreprendre un travail spirituel et ont été déçus parce que ça ne ressemblait pas à ce qu'ils croyaient. Moi, au début, j'étais très déçu parce que quand j'ai fini mon école biblique et je suis rentré dans le ministère, dans une église, j'étais très déçu parce que j'imaginais pas ça du tout comme ça. C'était rasoir au possible. Vraiment, j'étais déçu. Et beaucoup de gens sont déçus aussi. Il croit que Dieu va faire ci, que Dieu va faire ça, puis non, rien du tout. Alors les dons spirituels, moi je priais pour avoir des dons spirituels, et j'en ai reçu, gloire à Dieu. Il y en a qui prient pour ça, il y a rien qui se passe en plus. Et puis alors, l'argent nécessaire, il n'y a pas toujours l'argent nécessaire. Et puis, les amis fidèles, bon, ils sont pas nombreux, je me rappelle, au début je dormais dans un... C'était en Suisse pourtant, hein, un pays où il y a de l'argent. Hein. Je dormais dans un grenier l'hiver, il n'y avait pas de chauffage. Il y avait de la glace à l'intérieur de la chambre. Et j'avais un tout petit carré qui faisait 30 sur 30, que je mettais dans une prise, et puis ce petit carré, il chauffait, je le déplaçais dans le lit pour me chauffer un petit peu. J'avais vraiment pas envie d'aller me coucher le soir dans cette glacière, mais quelle horreur. J'étais découvert, pas l'ami, rien. Je sortais de l'église, les mémères, tout ça, me serrait la main. Au revoir frère, ça nous a fait tellement de bien ce que vous nous avez dit, merci beaucoup. Puis moi je disais, ben, c'est bien, gloire à Dieu, tout. J'avais le moral, les pâquerettes. C'était horrible, j'étais déçu et tout. Les problèmes qui viennent, les problèmes, la solitude. Bon, alors il y en a beaucoup qui se plaignent, et moi j'ai fait ça au début. J'ai fait ça aussi, je me suis plaint. Puis j'ai appris quelque chose, c'est que ça rapporte rien, c'est pas intéressant de se plaindre. Je veux dire dans le sens de, ça ne rapporte rien. Ça rapporte rien de se plaindre. Vous vous plaignez, les gens s'en foutent complètement. Ils vont vous donner 10 balles pour se débarrasser de vous, puis pour vous donner bonne conscience et tout. Ça sert à rien de se plaindre. Décidément, je vous parle beaucoup d'intérêt ce soir. C'est très intéressant de vivre avec et pour Dieu, parce qu'on en sort grandi. On en sort grandi, je dis bien on en sort. Ou alors on en sort détruit. Et mes pauvres enfants, j'en ai vu des détruits. Hein. La Bible, il y en a hein, qui ont été détruits. Des Judas, des Caïn, des Ananias, des Saphira, des Alex, des Alexandre le forgeron, etc. J'en ai vu des gens détruits. Stéphane. J'en ai vu dans ma vie. Et j'ai failli moi-même être détruit plus d'une fois. On ne rencontre pas que la vigne dans la vigne du Seigneur. Et puis c'est pas tous les jours la vendange. Lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir. Il est si facile de se laisser tromper par les apparences. Alors, ne vous demandez jamais ce que le monde invisible attend de vous en ne vous épargnant ni difficultés ni échecs. Car ces difficultés, ces échecs sont aussi des moments, des jours, des moments que vous devez mettre à profit, vous voyez encore, profit, pour travailler à la réalisation du royaume de Dieu sur la terre. Lucas, il est allé travailler dans la terre, là, pendant quelques semaines. C'est pas rigolo, hein. Quand il fait chaud, c'est horrible. Quand il pleut, on a de la boue jusqu'au mollet, hein. C'est pas rigolo, le travail dans le champ, dans la vigne, tout ça. Mais oui. Eh bien, il faut que les cœurs soient dévoilés. Les patrons, ils ont dit ensuite à Mélodie qu'ils ne pensaient pas que Lucas tiendrait une semaine. Et là, ils en redemandent parce qu'il aime ça, il aime le contact avec les gens, il aime ce travail. Et puis, il est aussi intéressé, non? T'es pas intéressé? Ils ont été très généreux avec toi et c'est bien que Dieu les bénisse pour ça. Voilà, on est intéressé, on ne travaille pas pour... Ah, Michel, il parle d'argent... Et qui c'est qui travaille pour la gloire uniquement? Je me lève le matin, je vais à l'usine. Non, non, patron, gardez votre argent, je travaille pour la joie de travailler, tout ça. Bien sûr, il y a de la joie à travailler. Bien sûr, c'est merveilleux, visser les boulons, tous les machins, tout ça. Mais celui qui prêche l'évangile doit vivre de l'évangile. Il faut que tous fassent ce qu'ils doivent faire afin qu'au jour du trône blanc, ils aient la bouche fermée. On dira, bon, c'est bizarre ce que tu me dis. Non, c'est pas bizarre. Tous doivent faire ce qu'ils doivent faire. Même Judas a dû faire ce qu'il devait faire. C'est pourquoi Jésus lui a dit, ce que tu as à faire, fais-le rapidement, fais-le promptement. Même Judas a dû faire ce qu'il devait faire. Vous, avec les talents que vous avez, faites ce que vous devez faire. On pourrait être étonné de constater que Jésus l'a encouragé à aller le livrer. Mais c'est pourtant bien ce qui s'est passé. Sur terre, tout va comme ça. Il y a des jours avec et il y a des jours sans. Il y a le jour et la nuit. Tiens, ça c'est un autre film encore. Jour, nuit, jour, nuit. Chaque mois, on voit la lune croître et décroître dans le ciel. Non, bien sûr. Eh bien, comme elle, comme la lune, notre conscience, elle s'éclaire, elle s'éclaircit et puis elle s'obscurcit. Elle se remplit, puis des fois elle se vide. Parce que vous et moi, nous sommes dans la nature. Et nous sommes soumis aux mêmes alternances que la nature. C'est pas tous les jours rigolo. C'est pourquoi il est nécessaire d'être conscient de l'époque où chaque phénomène risque de se produire. En observant la nature, on arrive à prévoir, tiens, demain il fera beau. Si le ciel est rouge, quand le soleil se couche, c'est que demain il va faire beau. On le sait parce qu'on l'a observé. Quand on était à l'Amblore, Michou le matin, elle disait ah, il va faire beau. Elle savait, même si c'était gris, même s'il pleuvinait, elle savait. Si... Pourquoi? Parce que avec l'observation, elle avait vu comment le temps change tout le temps là-bas en Normandie. Depuis qu'on est ici, elle ne sait plus parce que c'est différent. C'est très différent ici. Donc, mais on va apprendre, tous apprennent. Donc il faut apprendre, c'est nécessaire d'être conscient de l'époque où chaque phénomène risque de se produire. Supposez qu'une période difficile soit en train d'approcher. Si vous n'êtes pas conscient, vous risquez de prendre des engagements imprudemment. Mais comment le savoir? Comment savoir? Alors, c'est là que les faux prophètes font leur beurre. Parce que les chrétiens, ils courent derrière les faux prophètes. Les païens, ils ne courent pas derrière les prophètes ou les vrais prophètes ou les faux prophètes. Ils vont vers Madame Irma, ils lisent leur horoscope, ils vont voir des diseurs de bonne aventure. Les chrétiens, ils ont les prophètes. N'y allez pas. Acceptez le fait que des fois, c'est le jour et des fois, pas. Ne cherchez pas à connaître votre avenir. Croyez que Dieu tient tout dans sa main et travaillez à fond en vous préparant pour les mauvais jours. Il faut se préparer pour les mauvais jours et puis travailler à fond dans les bons jours. Dans Éphésiens 6, 13, 14, il nous est dit de prendre toutes les armes de Dieu. Quand est-ce qu'il faut prendre toutes les armes de Dieu? Demain. Non, maintenant, tout le temps. Il faut les prendre tout le temps sur soi, tout de suite, pas demain, maintenant. Prenez-les maintenant. Et pourquoi? Il le dit, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, c'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Eh bien voilà, nous voilà avertis. On n'a pas à chercher à savoir avec les prophètes et tout, ils se font un pognon ces gens-là avec ça, c'est terrible. Ne soyez pas surpris par les ténèbres, on a lu ça, c'est Jésus qui dit. Si vous ne faites pas attention, vous allez être surpris par les ténèbres. Ça veut dire quoi? Vous allez être surpris parce qu'on va vous lâcher. Vous allez être surpris parce que donc vous allez vous apercevoir qu'il y a des traîtres. Vous allez être surpris parce que il y a des gens que vous faisiez confiance, puis donc vous apercevez que c'est des superficiels, ils sont là-bas. Puis quand il y a vraiment besoin, il n'y a plus personne, ils ne pensent plus à vous. Faites tout ce que vous avez à faire avec ou sans eux. faites tout ce que vous avez à faire avec ou sans les lâcheurs, les traîtres, les superficiels, tous ces gens. Faites tout ce que vous avez à faire avec ou sans eux. Faites-le, 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 faites-le. Vous êtes là pour ça. Avec ou sans la lumière. Faites-le, faites-le. Vous avez, il y a tant de choses à faire. Si vous savez ces choses, et maintenant vous les savez parce que je vous les ai enseignées, eh bien vous ne marcherez plus dans les ténèbres. Vous ne serez pas étonné. Vous saurez où aller, vous saurez comment faire, même dans les jours mauvais. Et n'oubliez pas que c'est dans le jour le plus mauvais de sa vie, le plus sombre de sa vie terrestre, que Jésus a tout accompli. Et c'est un modèle. Ce n'est pas parce que ça va tout de travers qu'il faut abandonner. Ça, c'est les rats qui quittent le bord. Nous, on continue. On continue dans ce que Dieu nous a donné. Ça devrait nous faire comprendre beaucoup de choses, n'est-ce pas, que Jésus a tout accompli à l'heure la plus sombre de sa vie. Alors, soyez vigilants, préparez les éléments spirituels qui continueront à entretenir le feu en vous, alors qu'il n'y aura plus beaucoup de lumière à l'extérieur. Quand tout autour de vous, tout semblera sombre, vous aurez cette flamme en vous parce que vous l'aurez entretenue, parce que vous n'aurez pas été comme la cigale ayant chanté tout l'été. Qui se trouva fort dépourvu quand la brise fut venue. C'est ça. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas. Marchez, progressez, allez de l'avant. Cette lumière, elle représente les bonnes conditions intérieures que vous avez, extérieures aussi, qui nous sont données pour progresser et pour faire l'œuvre de celui qui nous a envoyés, c'est-à-dire Jésus-Christ. C'est son œuvre, c'est pas la nôtre. C'est lui qui est le plus intéressé. Nous, on a une petite part au bénéfice. Mais c'est lui le plus intéressé. Il pourvoira. J'ai souvent entendu des gens dire « Ah, si j'aurais su, j'aurais pas venu. » Ça, c'est aussi une autre référence cinématographique. Qui c'est qui peut me dire, qui c'est qui a dit « Si j'aurais su, j'aurais pas venu. » C'est un carré bouton, le petit Gibus. Premier, en noir et blanc, le meilleur. Eh bien, ceux qui disent ça, ils auraient dû savoir. Ils auraient dû savoir. On ne se lance pas dans l'œuvre de Dieu, dans la vigne de Dieu, sans savoir. C'est pourquoi il y a des écoles bibliques. C'est pourquoi il y a l'expérience des anciens. C'est pourquoi on apprend avant de se lancer. On n'est pas... est-ce que vous iriez chez un médecin qui n'a pas son diplôme? Est-ce que vous iriez chez un garagiste qui n'a pas son diplôme? Est-ce que vous iriez chez un dentiste qui n'a pas son diplôme? Alors, pour un serviteur de Dieu, avoir son diplôme, ça ne veut pas dire que « Ah, il a fait son école... » Non, ça veut dire qu'il était reconnu par ses pairs. Vous comprenez ça? C'est important, c'est très important. Ça rassure. Car tout vous a été donné pour apprendre et pour travailler. Et Jésus demande des efforts à chacun de nous. Des efforts que vous ne seriez pas capable de faire si vous ne saviez pas les choses que je vous ai dites. Là maintenant, ça y est, c'est dit. Alors, vous pouvez faire ces efforts. Vous pouvez relever la tête, relever les cœurs, et puis y aller. Alors, ne perdez pas de temps à vous lamenter, et surtout, ne vous découragez pas. Je ne suis pas en train de vous gaver, là. Je vous donne la nourriture convenable au moment convenable, selon l'ordre de Jésus dans Luc 12, 42. Si vous pensez que je vous gave, ben c'est bien malheureux pour vous. N'écoutez pas ce message d'une façon distraite. Faites attention, écoutez bien, réécoutez-le, prenez des notes, soulignez les passages dans la Bible. Intégrez ces choses en vous. Mes frères et sœurs, si vous vous êtes trompés, si vous vous trouvez dans un jour sombre, ne vous découragez pas. Il n'est jamais trop tard pour reprendre le chemin de la lumière. C'est jamais trop tard pour commencer à faire le travail que votre Père Céleste vous a confié. C'est jamais trop tard. Il y aura d'autres conditions qui vous seront données, peut-être pas tout de suite, mais ça va venir. Simplement, ce qu'il faut cette fois-ci, c'est ne pas laisser passer les chances que Dieu vous donne, vous offre. Ne pas les laisser passer. Quelles que soient les erreurs que vous ayez commises, rien ne peut vous empêcher de retrouver le bon chemin, sinon vous-même. Ne mettez pas le diable là-dedans. Il n'a pas le pouvoir de vous empêcher de travailler pour Dieu. Si Dieu vous a appelé à son travail et vous appelle dans la Bible, si vous êtes vraiment un enfant de Dieu rempli d'esprit, vous avez un appel dans la Bible à travailler dans sa vigne. Encore, est-ce que vous le souhaitez vraiment? Et dites-vous bien que Dieu a davantage confiance dans un être qui a commis des fautes et qui s'en est repenti qu'en celui qui n'a encore rien fait de mal, qui n'a pas encore commis d'erreur. Pourquoi? Parce que celui qui n'est jamais tombé ignore très souvent qu'il doit prendre des précautions. Il manque de sagesse, il n'a pas d'expérience. Alors que celui qui est tombé, il a de l'expérience. Celui qui s'est cassé la figure, celui qui était trompé, celui qui était déçu, celui qui a les mains gelées avec le sécateur dans la vigne. Moi, j'ai eu ça, les mains gelées avec le sécateur dans la vigne en Suisse. Quelles que soient les chutes, il est toujours possible de vous relever. Mais ce que je vous dis là, ne concluez pas que vous pouvez encore vous permettre sans cesse des égarements. Repentez-vous et assagissez-vous. Assagissez-vous afin de bénéficier des bonnes conditions que donne la lumière. D'en bénéficier. De bénéficier de la présence du Saint-Esprit avec vous pour vous conduire. Il n'est pas obligé de le faire. Mais il le fera si vous avez un cœur humble pour vous repentir si vous avez commis des erreurs. Il vous relèvera en son temps. Et vous verrez des merveilles. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de bénir et de fortifier chaque personne qui écoute ce message sur Internet. Je te prie, mon Dieu, que tu viennes à leur secours et que tu leur fasses comprendre ce qu'ils ont à comprendre pour qu'ils puissent faire ce qu'ils ont à faire et que ton nom soit ainsi glorifié. Merci d'avoir donné à chacun des talents particuliers pour qu'ils puissent les utiliser à bon escient pour ton œuvre dans ta vigne, ce qui est le travail numéro un, ce que tu préfères le plus au monde. Merci Jésus. Amen. Amen. Et amen. Au revoir.